À 9 h du soir, qu'il faisait un grand clair de lune et une gelée, par un vent de bisque tout glacé, on décramponna la chaîne, et on nous fit tous sortir de l'écurie dans une spacieuse cour, close d'une muraille, qui régnait devant cette hôtellerie. On fit arranger la chaîne à un bout de cette cour, ensuite on nous ordonna, le nerf de bœuf à la main qui tombait comme grêle sur les paresseux, de nous dépouiller entièrement de tous nos habits et de les mettre à nos pieds. Il fallut obéir, et nous, 22, ni plus ni moins que toute la chaîne, nous subîmes ce cruel traitement. Après donc que nous fûmes dépouillés, nus comme la main, on ordonna à la chaîne de marcher de front jusqu'à l'autre bout de la cour, où nous fûmes exposés au vent de bise pendant 2 grosses heures, pendant lequel temps, les archers fouillèrent et visitèrent tous nos habits, sous prétexte d'y chercher couteaux, limes et autres instruments propres à couper ou rompre les chaînes. On peut juger si l'argent qui se trouva échappa des mains de ces harpies. Ils prirent tout ce qui les accommodait, mouchoir, linge, s'il était un peu bon, tabatière, ciseaux, etc. Ils gardèrent tout, sans jamais en avoir rien rendu. Et lorsque ces pauvres misérables leur demandaient ce qu'on leur avait enlevé, ils étaient accablés de coups de bourrade de leurs mousquetons et de coups de bâton. La visite de Noard étant faite, on ordonna à la chaîne de remarcher le front jusqu'à la place où nous avions quitté nos habits. Mais, ô spectacle cruel, la plupart de ces malheureux, de même que nous, étions si roides du grand froid que nous avions souffert, qu'il nous était impossible de marcher, quelque petit espace qu'il y eut dans l'endroit où nous étions jusqu'à nos habits. Ce fut alors que les coups de bâton et de nerfs de bœuf plurent. Et ce traitement horrible ne pouvant animer ces pauvres corps, pour ainsi dire tout gelés et couchés les uns roides morts, les autres mourants, ces barbares archers les traînaient par la chaîne de leur col comme des charognes, leur corps ruisselant du sang des coups qu'ils avaient reçus. Il en mourut ce soir-là ou le lendemain 18. Pour nous, 22, on ne nous frappa ni traîna grâce à Dieu et à nos 100 vécus que nous éprouvâmes dans cette occasion, avoir été bien employés. Les archers nous aidèrent à marcher et emportèrent même quelques-uns entre leurs bras jusqu'où étaient nos habits, et par une espèce de miracle, il n'y eut aucun de nous qui y périt, ni pendant la route, où on nous fit encore 3 fois cette barbare visite en pleine campagne, avec un froid aussi grand et même plus rude qu'il n'était à Charenton. Il est à remarquer que, pendant qu'on nous fit ce cruel traitement à Charenton, ces 4 messieurs de Paris le voyaient des fenêtres de leur chambre qui donnaient dans cette cour. Ils criaient et se lamentaient, demandant au capitaine les mains jointes de nous épargner. Mais ils ne les écoutaient pas. Et tout ce que ces bons messieurs purent faire, ce fut de nous crier de nous recommander à Dieu, comme on fait à des patients à qui on va faire subir le dernier supplice. Et depuis, nous ne les avons jamais revus, car on nous recloua nos chaînes au râtelier de l'écurie comme auparavant. Jugez, je vous prie, si ces messieurs eurent l'appétit et le courage de se régaler du grand souper qu'ils avaient fait préparer pour nous. Le capitaine ne voulut même jamais permettre qu'ils entrassent dans l'écurie pour nous voir et nous secourir dans l'accablant état où nous étions, ni qu'on nous apportât le moindre rafraîchissement. Et il fallut nous contenter d'un morceau de pain, d'une once de fromage et d'un demi-sautier de mauvais vin pour chacun que le capitaine nous fit distribuer. Ce qui nous aida le plus à nous réchauffer, et qui vraisemblablement après Dieu nous sauva la vie, ce fut le fumier des chevaux de cette écurie sur lequel nous étions assis ou à demi couchés. Pour moi, je me souviens que j'eus la facilité de m'y enterrer entièrement. Ceux qui purent le faire se trouvèrent bien, se réchauffèrent et se remirent bientôt. Tout extrême et vilain que ce remède était, nous rendîmes grâce à Dieu de bon cœur de nous l'avoir procuré. Le lendemain au matin, nous partîmes de Charenton. On mit sur les chariots quelques-uns de nous 22 qui le requirent, sans qu'on les maltraitât le moins du monde. Mais les autres malheureux, accablés de leurs souffrances du soir précédent, et quelques-uns à l'article de la mort, ne purent obtenir cette faveur qu'après avoir passé par l'épreuve du nerf de bœuf. Et pour les mettre sur les chariots, on les détachait de la grande chaîne, et on les traînait par celles qu'ils avaient au col comme des bêtes mortes jusqu'au chariot, où on les jetait comme des chiens. Leurs jambes nues, pendant hors du chariot, où dans peu elles se gelaient, et leur faisaient souffrir des tourments inexprimables. Et qui pisaient, ceux qui se plaignaient ou lamentaient sur ces chariots des maux qu'ils souffraient, on les achevait de tuer à grands coups de canon. On demandera ici pourquoi le capitaine de la chaîne n'épargnait pas plus leur vie, puisqu'il recevait 20 écus par tête pour ceux qui livraient vivants à Marseille, et rien pour ceux qui mouraient en chemin. La raison en est claire. C'est que le capitaine, devant les faire voiturer à ses dépens, et les voitures étant chères, il ne trouvait pas à beaucoup près son compte à les faire charrier. Car, à faire charrier par exemple un homme jusqu'à Marseille, il lui en aurait coûté plus de 40 écus, sans la nourriture. Ce qui fait voir qu'il lui était plus profitable de les tuer que de les faire voiturer. Il en était quitte d'ailleurs en laissant au curé du premier village qui se présentait le soin d'enterrer ses corps morts et en prenant une attestation du dit curé. Enfin, nous traversâmes l'Île-de-France, la Bourgogne et le Mâconnais jusque à Lyon, faisant tous les jours 3 et 4 lieues, ce qui est beaucoup chargé de chaînes comme nous étions, couchant tous les soirs dans les écuries sur le fumier, mal nourris, et, quand le délège vint, toujours dans la boue jusqu'à mi-jambe, et souvent la pluie sur le corps qui ne séchait qu'avec le temps sur nos corps mêmes, sans compter les poux et la gale inséparables d'une misère pareille. Nous n'ôtions cette vermine de nos corps qu'à pleine main. Mais pour la gale, dont tous ces misérables de la chaîne étaient ulcérés, nous, 22, en fûmes exempts. Et pas un de nous ne la gagna, quoique pendant la route nous eussions été séparés les uns des autres, et que plusieurs de nous fussent accouplés avec quelques-uns de ces malheureux. Pour moi, je l'étais avec un qui était condamné pour désertion. C'était un bon enfant. On l'accoupla avec moi à Dijon, en Bourgogne, parce que le réformé, qui était enchaîné avec moi, était incommodé d'un pied et qu'il fut mis sur un chariot. Ce pauvre déserteur, donc, était si infecté de la gale que tous les matins, c'était un mystère pour me dépêtrer avec lui. Car, comme le pauvre misérable n'avait qu'une chemise à demi pourrie sur son corps, que le pus de sa gale traversait sa chemise, et que je ne pouvais m'éloigner de lui tant soit peu, il se collait tellement à ma casaque qu'il criait comme un perdu lorsqu'il fallait nous lever pour partir, et qu'il me priait par grâce de lui aider à se décoller d'avec moi. Cependant, je ne gagnais pas cette incommode maladie qui se prend si facilement. En arrivant à Lyon, on mit toute la chaîne dans de grands bateaux plats pour descendre le Rhône jusqu'aux eaux Pont Saint-Esprit. De là, par terre à Avignon, et d'Avignon à Marseille, où nous arrivâmes le 17 janvier 1713, tous 22, grâce à Dieu, en bonne santé. Des autres, il en était mort beaucoup en chemin. Il y en avait très peu qui ne fussent malades, dont divers moururent à l'hôpital de Marseille. Voilà la fin de notre route de Dunkerque à Marseille. Route qui m'a fait plus souffrir, principalement depuis Paris, que pendant les 12 années précédentes de ma prison et de mon séjour sur les galères. Dieu soit loué que d'ici en avant, je n'en ai plus à raconter que les événements qui précédèrent et accomplirent enfin notre chère liberté. Événements qui n'ont, Dieu merci, rien de tragique, mais qui méritent bien la curiosité du lecteur. On y verra la malice noire et la haine invétérée des missionnaires de Marseille, et la grâce de Dieu envers ses enfants triomphés de leurs implacables ennemis.